Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 5 au verset 17? Et pendant que tu ouvres ta Bible, tu dis avec moi, la grâce surabondante. Ah. Romains 5 au verset 17. Qui dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Dans le livre de Jean, au chapitre 1, au verset 18, il est aussi écrit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. On a déjà dit beaucoup de choses sur le sujet. Ceux qui viennent pour la première fois, je vous invite vivement à écouter les messages que nous avons donnés les semaines précédentes. Ce sujet est le sujet le plus important de la Bible, c'est le message du royaume. C'est le message de la libération. La grâce, dis avec moi la grâce. Surabondante. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, un peu plus loin, verset 22 ou 23, je crois, il est écrit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. De quel péché on parlait? On parlait du péché que Adam avait commis en Éden, qui a entraîné toute l'humanité dans le péché. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais tous sont justifiés. Ensuite, c'est quoi? Si vous connaissez vos Bibles, tous sont justifiés par. Hein? Ah, vraiment? Par la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. Yeah. Hein? Ceux qui sont en cours biblique, je vais vous attendre au tournant. Donc, tous ont péché et tous sont justifiés et rachetés par le sang de Jésus-Christ à cause du sacrifice qu'il a fait à la croix. Et tous sont ressuscités avec lui, tous ceux qui croient. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit ait la vie éternelle et ne périsse point. Donc, le message de la grâce est un message extrêmement important. La grâce surabondante, c'est une promesse, c'est la promesse. C'est la promesse que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Et cette promesse que Jésus-Christ a accompli à la croix, nous donne accès à une faveur inconditionnelle et illimitée que nous avons auprès du Père. D'où nous vient cette faveur-là? Cette faveur vient de la relation qu'il y a entre un père et un fils, entre le père et ses fils. La faveur que nous avons, nous, en tant que fils, sur notre vie, ce n'est pas du tout la faveur que les non-croyants dans le monde ont. Quand Dieu te regarde, et regarde un non-croyant, je t'assure, tu n'as pas du tout le même statut. Vous êtes deux êtres humains, Dieu vous aime tous les deux. Mais toi, tu es fils en Christ Jésus. J'ai une image qui me vient en tête. Il y a un film avec un jeune garçon blanc, un acteur américain. Un très jeune garçon qui avait percé quand il était très jeune. Je ne me rappelle plus du titre du film. Et durant tout le film, c'est un film assez particulier, c'est que l'enfant, en fait, il y avait des assassinats dans la ville, mais on ne savait pas qui tuait les gens. Et on découvre, au fur et à mesure que le film avance, que c'est l'enfant de la dame en question qui tue les gens. Et il y a un de ses cousins, le fils à son frère, qui vient passer les vacances chez eux. Et ce cousin-là, la maman ne sait pas pourquoi, mais elle aime particulièrement le cousin. Parce que spirituellement, il y avait quelque chose qui s'était créé avec ce cousin-là, cet enfant-là. Et l'enfant découvre cette intimité qui s'est créée entre la maman et le cousin. Parce que l'enfant, bien que les parents aient toujours eu envie de l'aimer, il a toujours tout fait pour qu'on le déteste. Donc la maman, en fait, elle joue toujours son rôle de maman parce que c'est son fils. Mais le cousin, en fait, il a un comportement, il a vraiment le comportement du fils modèle dans la maison. Et il y a un lien spirituel qui se crée avec la maman. Donc l'enfant détesté va tuer son propre papa et puis va commencer à persécuter sa maman et le cousin. Et la scène du film termine comment? Il y a une bagarre, il veut les tuer, etc. Et il se retrouve au bord d'une falaise. Et tous les trois commencent à se battre parce qu'il veut tuer sa propre maman et le cousin vient sauver la maman. Donc ça se bat, etc. Et finalement, les trois tombent par terre au bord de la colline et les deux enfants sont sur le point de tomber dans le ravin. Et la maman rattrape les deux gosses en même temps. Et là, elle ne peut pas remonter les deux. Elle est obligée de choisir. Elle choisit entre son propre fils de chair et de sang ou elle choisit entre l'enfant spirituel. Et elle est là. Et là, il commence à la regarder avec un regard très diabolique. Je suis ton fils, voyons. Hein? Tu ne peux pas choisir entre lui et moi, etc. Et finalement, elle dit à son fils, à son propre fils, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon aide, de toute mon âme. Mais c'est lui que je choisis. Elle laisse tomber son propre fils et elle choisit l'enfant spirituel. Est-ce que ça vous parle? Donc, Dieu aime les deux. Mais toi, tu as une grâce particulière. Parce que spirituellement, tu es un avec le Saint-Esprit. Tu vois? Et nous, les croyants, nous, l'Église, il y a une grâce que j'appelle la grâce surabondante, illimitée, inconditionnelle, que Dieu a déversée à profusion sur chacun d'entre nous. Et nous, les chrétiens, nous avons tendance à oublier que nous avons cette faveur-là devant Dieu. On vit sur la terre, on stresse, on se mine de toutes sortes de soucis, on remet en question l'amour que Dieu a pour nous, on remet en question notre habitude, notre vie d'église, etc. Et Dieu, qui pourtant a tout donné pour nous, et là il nous regarde et se gratte la tête en disant, mais pourquoi mes enfants ne comprennent pas que je les aime tant et j'ai tout donné pour eux? Éphésiens 1:3 dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. La version parole vivante dit, il a déversé toutes les bénédictions que les cieux contenaient sur nous. Le jour où j'ai découvert le verset là, papa, j'ai dit, Dieu, si tu as déversé toutes les bénédictions que les cieux contenaient, je refuse la pauvreté, je refuse la précarité, je refuse la maladie, je refuse la souffrance, je vis dans l'abondance et dans la paix et dans la tranquillité et la prospérité. Que quelqu'un dise amen. Il faut refuser ces choses-là. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Si, regarde, il y a un verset qui dit, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Arrête de toujours parler des choses spirituelles parce que ce verset parle vraiment de l'argent. C'est le seul verset de la Bible qui parle de l'argent en ce qui concerne Jésus. De riche qu'il était. Jésus-Christ est roi. A dit avec moi, Jésus est roi.
Jésus est roi.
Tu as jamais un roi qui est pauvre?
Jamais.
Non. Ah. On va un peu parler. Jésus est roi. La Bible n'aborde pas le sujet de l'argent, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que la Bible n'aborde pas le sujet de l'argent que toi, il ne faut pas t'y intéresser. Il faut t'y intéresser. Il ne faut pas aimer l'argent, il ne faut pas être cupide, il ne faut pas chercher et poursuivre ces choses-là. Mais il faut t'y intéresser avec sagesse. Sinon, tu vas finir pauvre, gay. Il faut t'y intéresser avec sagesse et humilité devant le Seigneur pour que tu deviennes sage et intelligent. Et Dieu te fera grâce et tu prospéreras dans la vie. Mais si Jésus-Christ est mort, de riche qu'il était, pour que tu sois enrichi. Enfin, si Jésus-Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que tu sois enrichi, alors ça veut dire que tu es censé vivre dans un minimum d'abondance quand même. Peut-être pas dans la richesse, richesse, richesse. Parce que dès qu'on dit le mot richesse, ça dérange les gens. Richesse. Dès qu'on dit richesse, ils pensent à des milliards, des milliards. Tu sais, la richesse, ce n'est pas des milliards. Il y a différents niveaux de richesse. Il y en a qui sont riches en milliards, il y en a qui sont riches en milliers de francs, mais ils sont très bien. La vraie richesse qui vient de Dieu, c'est l'indépendance financière. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne souffre pas, qui n'a pas de problème. Il n'a pas besoin d'avoir beaucoup, beaucoup. Il y en a même, si tu veux leur donner des milliards, il va te dire non. Parce que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Tu ne sais pas ça? Oui? Tu vas avoir beaucoup d'argent. Si tu dis, Seigneur, je veux beaucoup d'argent, tu dis en même temps, Seigneur, je veux beaucoup de problèmes. Enfin, je ferme la parenthèse. On avance. Donc, Jésus-Christ a tout accompli à la croix pour nous. Il a tout donné. Et on a dit beaucoup de choses. Et là, nous sommes sur les 21 caractéristiques de la grâce surabondante. Vous avez remarqué que je prends mon temps pour la simple bonne raison que chaque caractéristique, chaque point est important à comprendre. Et quand on va saisir ça, notre vie va changer. La première caractéristique, je les rappelle très rapidement, c'est que la grâce surabondante fait de toi un être humain rempli de la nature divine appelée la nouvelle création. Dis avec moi la nouvelle création. La deuxième caractéristique, c'est que la grâce surabondante nous rétablit à notre statut de fils héritier dans le royaume de Dieu. La troisième caractéristique, c'est que la grâce surabondante nous donne un nouveau accès à nos droits légitimes de fils. La quatrième caractéristique, c'est que la grâce surabondante que nous recevons en Christ Jésus restaure notre intimité avec le Père que Adam avait perdu en Éden. C'est par là qu'on a commencé la semaine dernière. Cinquième, la grâce surabondante active les promesses divines dans notre vie. Les promesses divines sont disponibles, mais c'est seulement quand tu viens en Christ qu'elles s'activent dans ta vie. Un non-croyant ne peut pas bénéficier des promesses bibliques, des promesses divines, tant qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus. C'est pour cela que, par exemple, il y a une promesse qui s'appelle la guérison. Tu ne peux pas venir voir un non-croyant qui est malade et puis venir dire au nom de Jésus-Christ, « Seigneur, guéris-le. » Le Seigneur m'a dit, « Je ne le guéris pas. Il n'est pas en alliance avec moi. » Tu ne sais pas ça? Il faut que toi, avant de faire la prière, tu te demandes d'abord au non-croyant, « Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te guérir et qu'il est le Seigneur dans ta vie ?» S'il répond, « Jésus-Christ est mon Seigneur, je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur et je crois qu'il me guérit aujourd'hui », alors là, la promesse peut s'activer. Est-ce que tu me suis? Une fois, il y a une dame qui vient me voir à l'église, ici, après le culte, et puis elle me dit, « Pasteur, voilà, je voudrais que vous veniez à l'hôpital cet après-midi. » Je dis, « Pourquoi ?» Parce que tout simplement, l'homme avec qui je vis... L'homme avec qui quoi? L'homme avec qui je vis est malade. Donc tu vis avec un homme, ok? Tu n'es pas marié avec lui? Non. Donc tu es dans le péché. Donc là, déjà, on a un souci, tu vois. Mais bon, avançons. Donc je voudrais que tu pries pour lui. Ok, est-ce qu'il est en Christ? Non. Il est très réfractaire en ce qui concerne les choses de Dieu. Ah! Mais tu veux que je vienne dire quoi? Je ne peux pas prier pour un gars comme ça. Non, mais ce n'est pas grave. Moi, je crois quand même que Dieu peut faire, Dieu peut faire. Je lui ai parlé souvent de Jésus, mais vraiment, il dit qu'il ne croit pas trop. Il n'est pas athée, hein, mais il ne croit pas que... Il dit que chaque religion, chacun ses croyances, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai dit, sœur, je te rappelle. Je n'ai pas allé perdre mon temps. Parce que j'allais juste aller perdre mon temps si je partais. La promesse de la guérison ne pouvait pas s'activer dans la vie de cette personne-là. Sixième caractéristique, la grâce surabondante nous rétablit dans notre autorité de régent de la terre. Dis avec moi, autorité. On va encore y revenir aujourd'hui. Et on va continuer notre petit voyage. Septième caractéristique, dis avec moi, la grâce surabondante. Encore une fois, la grâce surabondante. Secoue le plafond. Ouais. La grâce surabondante, septièmement, écrit toute la loi divine dans notre cœur. Toute la loi que tu retrouves dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse et même les lois divines qui existaient bien avant que Moïse existe, toutes ces lois, quand le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de grâce et de puissance, entre dans ta vie, toute la loi, il l'écrit dans ton cœur. Il la grave dans ton cœur. De sorte que tu n'as plus besoin de connaître la loi par cœur comme les Juifs auparavant. Tu as juste à croire. Et c'est seulement maintenant par la foi que la loi divine appelée Christ, dis avec moi Christ, dans le royaume, comment dire, te justifie. Toute la loi du royaume est personnifiée en la personne de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ entre dans ta vie, toute la loi du royaume est gravée dans ton cœur. Tu vas mieux comprendre. Et ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on est sous le régime de la grâce. Dis-moi le régime de la grâce. On est sous le régime de la grâce et notre loi dans le royaume, c'est Christ. Amen. Donc, bien que tu dois lire ta Bible tous les matins pour chercher toujours à comprendre les principes du royaume, chercher toujours à comprendre Dieu, chercher à comprendre la loi de Dieu, la loi divine, bien que tu dois méditer cette parole jour et nuit, sache que c'est parce que tu médites cette parole que le Saint-Esprit peut activer des choses dans ton cœur. Mais ça vient d'où? Ça ne vient pas du bouquin que tu lis seulement. Ça vient parce que le Saint-Esprit en toi a gravé la loi divine dans ton cœur. Et cette loi-là qui est gravée dans ton cœur, c'est elle qui te justifie. La Bible dit dans Ézéchiel, je retourne mon passage, voilà. Ézéchiel chapitre 11 au verset 19. Il s'agit ici de la promesse que Dieu faisait à l'époque et que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Ézéchiel 11, 19 dit, « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Amen. Ça, c'est une promesse qu'il faisait au travers du prophète Ézéchiel. Et tu retrouves ça dans l'Ancien Testament. Mais quand tu ouvres le Nouveau Testament, nous qui sommes dans le régime de la grâce, cette parole-là est accomplie pour nous. Tu comprends ce que je dis? Je mettrai mes lois dans leur cœur. Dès le moment où le Saint-Esprit arrive dans ta vie, il met les lois divines dans ton cœur. Tu me diras, mais pasteur, comment je sais que les lois divines sont gravées dans mon cœur? Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. Regarde. Jérémie 31, 33 nous dit encore ceci, avant de répondre à la question. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, pour ne pas parler de l'Église. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai. Dis avec moi, je l'écrirai. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, il prend le stylo divin, la main de Dieu, et puis il écrit ça sur ton cœur. Maintenant, comment tu sais que la loi est gravée dans ton cœur? Eh bien, c'est très simple. Tu n'as pas remarqué que parfois, quand tu es sur le point de faire certaines choses, tu as de fortes pensées qui te montent à la tête et qui te disent, ne fais pas ça. Ça vient d'où ça? Ça vient parce que c'est en toi. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ et Christ qui est la loi est un avec toi. Et parce qu'il est un avec toi, cette loi-là résonne au-dedans de toi. C'est-à-dire, chaque fois que tu es sur le point d'agir d'une certaine manière qui ne glorifie pas le Seigneur, cette parole-là qui est en toi s'affiche devant toi et te dit, ne fais pas ça. Tu veux frapper quelqu'un et quelque chose monte dans ton cœur et te dit, ne fais pas ça, parce que ce n'est pas bien. Tu n'as jamais remarqué, tu n'as jamais vécu ça. Moi, je l'ai déjà vécu. Une fois, j'étais en train de parler avec quelqu'un, et puis j'ai dit une parole. Et puis, au moment où j'ai dit la parole, dès que je tourne mes pieds pour m'en aller, j'entends une voix dans mon esprit qui me dit, « Ce que tu viens de dire, est-ce que c'est vrai ?» J'ai dit, est-ce que c'est vrai ?»« Non, mais Seigneur, j'ai pas menti. Est-ce que c'est vrai ?»« Pas tout à fait. Ben, si c'est pas tout à fait vrai, tu viens de mentir. » Alors tu vas voir cette personne et tu lui dis la vraie chose, la vérité. Tu lui dis, oh mais Seigneur, c'est pas exactement ça. Mais c'est ça quand même. Non, sinon tu es un menteur. Et je quitte ton corps tout de suite. Je dis, non, ne quitte pas. Je vais dire la vérité. Amen. Dieu écrit la loi dans nos cœurs. Sa loi divine. Toute la Bible que tu tiens entre tes mains, elle est écrite dans ton cœur. C'est pas parce que tu ne connais pas tous les versets. Cette parole-là, elle est dans ton cœur. Parce que cette parole-là, Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle s'est faite chair. Cette parole-là, c'est Christ. Et si Christ est devenu un avec toi, 1 Corinthiens 6, 17, alors cette parole-là, Christ, est en toi. Jésus-Christ n'avait jamais de Bible. Mais quand il se tenait devant les gens et qu'il parlait, il était plein de sagesse. Les gens disaient, mais où est-ce qu'il a appris tout ça? Parce qu'il est la parole. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et dès le moment où il entre dans ta vie, la parole entre dans ta vie. Amen. Donc, on ne marche plus selon la vue, mais on marche selon la foi, en croyant que Jésus-Christ non seulement nous lave de nos fautes et nous purifie de tout péché, mais aussi en croyant que la loi divine aujourd'hui est gravée dans nos cœurs et personnifiée en nos personnes, en la personne de Jésus-Christ. Amen. La loi n'avait qu'un seul objectif avant. La loi, elle n'avait qu'un rôle de pédagogue et de nous conduire à Christ. Quand on parle souvent de la loi, les gens ne comprennent pas toujours, parce que nous sommes sous la grâce. Mais si tu veux comprendre la grâce, il faut bien comprendre la loi. Si tu ne comprends pas comment fonctionnait la loi avant avec les Juifs, et c'est pour ça que Dieu a pris le soin de laisser l'Ancien Testament. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire comment les autres ont vécu avant. Quand par exemple on te parle des offrandes, et puis tu es toujours en train de te plaindre parce que c'est toujours de l'argent. On prend toujours mon argent, ma dîme, tout ça. Est-ce que c'est obligé de donner la dîme, etc. C'est parce que c'est de l'argent que tu prends de ta poche. C'est pour ça que ça t'énerve. Mais avant, les autres, ils n'emmenaient pas de l'argent. Ils emmenaient des animaux, ils emmenaient des plants, ils emmenaient des bananes, ils emmenaient plein de choses. Toi, aujourd'hui, on te demande de l'argent parce qu'on ne va pas te demander de venir chaque dimanche avec des régimes de bananes ici. C'est juste ça. Hein? Mais si tu veux ramener des régimes de bananes romaines, moi, j'aime bien les beignets. Ça ne me pose aucun problème. Tu vois? Mais les Juifs, eux, avant, c'est ce qu'ils faisaient. Ils avaient toujours de... Oui, j'aime les bananes, c'est quoi? Ils allaient toujours devant le trône avec des offrandes. Ils avaient les ablutions. Ils se lavaient à l'autel des reins. Ils allaient dormir. Ils jeûnaient, je ne sais pas combien de fois par jour, etc. Toi, aujourd'hui, quand on dit jeûne et prière chaque première semaine du mois, parfois tu ne jeûnes pas. Mais c'est parce que tu es aujourd'hui sous le régime de la grâce que Dieu t'épargne. Mais eux avant, ce n'est pas comme ça. Eux avant, ils devaient prendre la loi là, et obéir à ça, à la lettre. Parce qu'à cette époque-là, Dieu frappait. Dieu se manifestait et il frappait. Tu connais les fils du sacrificateur Abiathar. Tu en as déjà entendu parler dans la Bible. Comment ils s'appelaient les deux là? J'ai oublié leur nom. Les deux qui ont amené un feu étranger devant le trône. C'est dans le livre d'Exode. Va lire ça. Deux fils du sacrificateur Abiathar, qui était le souverain sacrificateur du peuple juif. Chaque matin, ils devaient venir devant la tente de la rencontre de l'Éternel et faire toutes les pratiques qu'ils devaient faire. Et un jour, Dieu ne leur avait pas parlé. Ils ont amené un feu étranger. Bon, enfin, le feu étranger, c'était... Je n'ai pas envie d'expliquer c'est quoi le feu étranger. En fait, ils ont amené un feu étranger. En fait, ils ont fait quelque chose qui n'était pas conforme au protocole divin que Dieu avait donné. C'est ce que Dieu a fait. Ouh, il les a brûlés sur place. Et là, il lui dit que Aaron, quand il a vu ça, il a dit, ah, ça c'est le Dieu qu'on sert. Il est sans pitié. Hein. Et c'est à partir de ce passage-là que l'attitude d'Aaron a changé dans la Bible. Il est toujours resté, mais... Aaron, je ne sais même pas s'il a atteint sa destinée. Parce que la manière dont il est parti, là, c'était troublant. Il a fait le veau d'or, tout ça. Je ne sais pas vraiment si lui, il a atteint sa destinée. Bon, bref. Donc, cette loi-là, il faut comprendre ce qui s'était passé avant. Et quand tu comprends ce que Dieu exigeait avant, tu vas mieux comprendre la grâce et la faveur que Dieu nous fait aujourd'hui. Dis avec moi la grâce. Surabondante. Amen. Aujourd'hui, nous marchons par la foi. Tout ce qu'on fait, on le fait par la foi. Quand nous chantons par la foi. Quand nous servons le Seigneur, nous le faisons par la foi. Nous croyons que Dieu fait toutes choses parfaites. Et nous croyons aussi que la loi divine qui est inscrite dans la Bible est aussi inscrite dans nos cœurs et qu'elle est totalement accomplie dans notre vie. Quand tu ouvres ta Bible et que tu vois une promesse où il est écrit, si tu fais ceci, etc., le Seigneur fera cela. Ton attitude doit être, Seigneur, je crois que cela est déjà accompli dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Voici comment le croyant doit marcher. Le juste vivra par la foi. La foi est extrêmement importante. Hébreux 11 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, je répète, c'est le moyen par lequel nous pouvons saisir la grâce infinie et surabondante de Christ. Une fois qu'on reçoit Christ dans notre vie, la loi divine s'inscrit automatiquement dans nos cœurs et par la foi, nous croyons que tout ce qui est écrit dans cette loi-là est accompli dans nos vies. Amen. Dis avec moi, la loi divine est gravée sur mon cœur. Amen. La huitième caractéristique de la grâce surabondante. La grâce surabondante, huitièmement, ouvre nos yeux pour voir la réalité du monde qui nous entoure. Ah, ça, j'aime ça. Dès que Christ entre dans ta vie, ce que tu ne voyais pas avant, tu commences à le voir. Tu avais une manière de regarder le monde autour de toi. Et tu n'as pas remarqué que dès que tu viens à Jésus-Christ, il y a des choses maintenant que tu constates que tu ne voyais pas avant. Éphésiens 1, livre d'Éphésiens. C'est un passage très intéressant, version parole vivante. Éphésiens chapitre 1 au verset 7. Quand j'ai lu ce passage, dans cette version, ça m'a intrigué. J'ai dit, ah, dis avec moi, ah. Éphésiens 1 au verset 7 à 9. Il est écrit, c'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ceux qui nous tenaient en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui, dis avec moi, nous sommes un avec lui, que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. Cette grâce, dis avec moi, cette grâce, il l'a déversée sur nous à profusion. Elle a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence. Ah, il parle de toi ici. Sous son influence, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. Ce plan que, de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré. Il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ. Amen. Le jour où tu viens à Jésus-Christ, quand tu étais dans le monde, tu te plaisais à certaines choses. Tu faisais certaines choses. Tu ne prêtais pas attention à certaines choses. Et maintenant que tu es en Christ, tu vois certaines choses. Maintenant, ça te touche. Avant, ça ne te touchait pas. Ce que tu aimais avant, maintenant tu le rejettes. Ce qui t'attirait avant, maintenant ne t'attire plus. Ce que tu convoitais avant, maintenant tu le rejettes. Avant, tu aimais les femmes, les hommes. Oh, parce qu'il y a aussi les femmes aussi qui aiment les hommes. Hein. Maintenant, même si charnellement tu es toujours un peu attiré par ça, quelque chose te dit dans ton cœur, parce que la loi est gravée, elle te dit, faut laisser ça, c'est pas bon. Mais avant, tu te jetais à corps perdu dedans. Avant, tu haïssais les gens. Et ceux que tu haïssais hier, maintenant tu commences à les aimer. Tu n'as plus de colère. Vous savez, j'ai jamais vu des gens comme ça. Quand ils arrivent au Seigneur, ils sont remplis de colère. Ce sont des gens qui haïssent la vie. Mais quand il vient le Seigneur, maintenant ils sont en paix, ils aiment tout le monde, etc. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut changer quelqu'un comme ça. Oh. Je vous assure, j'ai vu des transformations de gens. Des transformations de gens. J'ai connu quelqu'un qui a fait la prison. Il était gangster. Tu sais ce qu'est un gangster? Ce n'est pas ton gangster de la gare routière, là. Les gangsters d'Europe, c'est des vrais gangsters. C'est des gars qui cambriolent les banques, c'est des gars qui font des trucs. Et qui sont prêts à tout. Et ce gars-là, Il avait tué des gens. Il avait tué des gens. C'est quoi tuer? Il avait tué des gens. Et il avait fait de la prison. Et là, en prison, il rencontre Jésus-Christ. Et quand il sort de prison, quelqu'un l'amène à l'église. Et là, il commence à avoir une vie, une marche avec le Seigneur. Mais le gars, au début, quand on l'a reçu dans le ministère de jeunesse, parce qu'il faisait partie des jeunes, tout le monde avait peur de lui. Parce que quand tout le monde avait appris que le gars l'avait tué déjà, frère, ça va? Le gars, il avait tué des gens. C'était un meurtrier, il avait fait la tôle. Donc les gens avaient peur de lui. Mais le gars, il était toujours avec sa Bible. Il voulait vraiment connaître Jésus. Tu vois? Et quand il est arrivé, le gars, il était rempli de colère et de haine. Il voulait vraiment avancer avec le Seigneur, mais le gars, il avait du mal. Mais au fur et à mesure que les mois passaient, on a vu la transformation du jeune homme. Et à la fin, c'était même lui qui parlait de Jésus aux autres. Et un jour, j'étais avec le responsable du ministère de jeunesse et je, on parlait avec lui. Je disais au responsable, mais tu as vu comment Dieu a transformé le gars là? C'est impressionnant, hein? Comment le gars parle aujourd'hui de Jésus. Quand on dit, frère, tu vas prier, le gars il se lève, il prie, Seigneur, au nom de Jésus. Et c'était vraiment magnifique. Parce que le gars qui était arrivé au début, un an avant, c'était pas du tout la même personne. Et il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire ça. Amen. Parce que le gars, ses yeux s'étaient ouverts. Il avait compris qui il était réellement. Et passionné de l'enseignement, plus il rentrait dans l'enseignement de la parole, et plus il se rendait compte que la grâce divine là, l'avait totalement lavé de tout ce qu'il avait fait. Et il y a un verset dans Jérémie, je ne me rappelle plus le chapitre, qu'il avait lu, où Dieu dit, je prendrai de vos péchés et je les jetterai dans la mer de l'oubli. C'est-à-dire le verset là, oh! Dieu a pris mes fautes, les gars que j'ai tués là, et Dieu a oublié ça. T'as dit, quand tu comprends ça, tu pleures. Surtout quand tu sais que tu as buté des gens. Ah ben oui. Il y en a, ils ont eu des vies pires que la tienne. Tu penses que vraiment, mais t'as. Avant, tu étais agressif. Aujourd'hui, tu es maintenant doudou. Tu aimes tout le monde. Il y a un mot ici qui est très important. C'est le mot connaître. Le mot connaître vient du grec gnoriso. Dis avec moi gnoriso. Qui veut dire révéler. Quand Dieu. Oui, voilà, le mot connaître vient de la version Louis II. La version en parole vivante dit qu'il a ouvert nos yeux. Mais dans la version Louis II, il dit nous a fait connaître. Le mot connaître vient du mot grec gnoriso qui veut dire révéler. Le mot plan secret. Il nous a fait connaître son plan secret. Je l'ai lu tout à l'heure là. Il nous a rendu capable de saisir. Voilà, dans la version parole vivante, il dit il nous a rendu capable de saisir le secret du plan de Dieu. Le mot plan de Dieu ici, c'est le grec mysterion, qui veut dire mystère. D'accord? C'est le même mot que Jésus-Christ utilise dans Matthieu 13 lorsqu'il dit à vous, mes disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Vous vous rappelez de ce passage, va? Ouais, dans Matthieu 13. Mystérion. Eh bien, la grâce surabondante, quand elle arrive, non seulement elle ouvre tes yeux sur la réalité du monde qui t'entoure, mais elle te permet de comprendre maintenant le plan divin qu'on appelle le plan du salut pour l'humanité. Toi, tu es là quand je parle là. Tu comprends ce que je dis, non? Il y a beaucoup de non-croyants, quand ils entrent ici, ils ne comprennent rien. La première fois que j'ai offert une Bible à un de mes petits frères, je suis parti travailler. Quand je suis revenu à la fin de la journée, il était resté tout l'après-midi à lire la Bible. Et puis je lui dis, alors, tu as avancé? Il dit, je ne comprends rien à ton livre-là. J'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de lire? Voici ce que je suis en train de lire. J'ai lu tout le livre d'Ésaïe, je ne comprends rien. J'ai dit, mais c'est normal, tu comprends Ésaïe, vraiment. Ésaïe, le livre du prophète d'Ésaïe, c'est clair que ce sera totalement incompréhensible pour toi. Donc, avant, la détresse du monde ne te disait rien. Maintenant, elle te dit quelque chose. Avant, les malheurs du monde ne te disaient rien. Maintenant, tu as mal au cœur. Tu veux t'engager dans les ONG. Tu veux aider tout le monde. Tu veux faire du social. Tu veux aller évangéliser. Mais avant, quand tu étais dans le monde, tu n'avais pas envie d'évangéliser. Ton désir d'évangéliser, là, ça vient d'où? À cause de la grâce surabondante. Amen. Et Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2:1. dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, eh bien, pareil pour toi aussi. Toi aussi, maintenant, naît en toi ce désir de voir tous les hommes être sauvés. Amen. La grâce surabondante ouvre nos yeux sur la réalité du monde. Elle ouvre aussi nos yeux sur Dieu et son amour pour nous en Jésus-Christ. Elle ouvre nos yeux sur la réalité du royaume de Dieu qui nous entoure. Elle ouvre nos yeux sur notre véritable identité de fils héritier du royaume. Ce que tu ne voyais pas avant. Amen. Elle ouvre tes yeux aussi sur un point très important. Elle ouvre tes yeux sur ton rôle sur la terre. Parce que Jésus-Christ nous dit, dans Matthieu 5, 14, vous êtes, dis moi, vous êtes. Non, dit, je suis la lumière du monde. Jésus-Christ dit de toi que tu es la lumière du monde. Pas que tu es appelé à devenir, mais que tu es la lumière du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en Christ, tu es né pour éclairer le monde qui t'entoure, pas pour rester passif et insensible à ce qui se passe autour de toi. Un enfant de Dieu en Christ qui est insensible à ce qui se passe autour de lui est anormalement constitué. Ta vie doit être un témoignage à la gloire de Dieu et les autres doivent connaître la vraie vie en Christ au travers de toi. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est, mais depuis que tu es en Christ, qui sont les gens qui ont été éclairés par ta vie? Qui sont les gens qui ont été touchés par ta vie? Qui sont les gens que tu as évangélisés? Qui sont les gens que tu as emmenés à l'église? Qui sont les gens qui ont entendu parler de Jésus-Christ au travers de ta bouche? Qui? Si depuis que tu es en Christ, tu n'as jamais pris le temps d'évangéliser quelqu'un, tu n'as jamais pris le temps de manifester Christ à des non-croyants, alors il y a un souci. Parce que ta vie doit refléter Christ. Les fruits que tu portes et manifestes doivent refléter Christ. Les non-croyants doivent être dérangés en ta présence. Quand les non-croyants sont en train de rire du péché en ta présence, ils doivent savoir que ce n'est pas bien. Quand il y a un non-croyant, tu es au boulot, et puis il est là, sur son ordinateur, au lieu de travailler, il regarde un film porno. Et toi, tu vois ça. Au lieu de faire, oh Seigneur, vraiment, Seigneur, je prie pour lui. Je prie pour lui. Non, tu dis, monsieur,
oui,
repentez-vous au nom de Jésus. Sinon, vous allez aller en enfer.
C'est pas pour toi, Lucas.
C'est ça que tu dois faire. Pas genre faire le timide là. Repends-toi. Faut donner ta vie à Jésus. Hein? Un jour, j'étais dans le taxi avec ma femme. On partait en ville. Et puis, le Saint-Esprit me prend. Et puis, j'ai dit, monsieur. Il fait, oui, monsieur. On était monté dans les taxis compteurs, là. Tu vois? Oui, nous, de temps en temps, on prend les taxis compteurs. On était pressés. On a pris taxi compteur. Et puis, il fait, oui, monsieur. Vous connaissez Jésus? Bon, pas vraiment. Vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ? Non, mais ça va venir. Monsieur, il faut donner votre vie à Jésus-Christ rapidement. Ce sera la décision la plus importante que vous prendrez de votre vie. D'accord? D'accord. Voici ma carte. Je suis pasteur, lui, qu'on dit, appelez-moi. Il prend ma carte et tout. Il me regarde. Il fait, oui, d'accord, c'est un processus. J'ai dit, il faut donner votre vie à Jésus, d'accord? Je compte sur vous. Oui, monsieur, il n'y a pas de problème. D'accord. Appelez-moi. Il ne m'a jamais rappelé. Il a dit, c'est encore un... Mais j'ai joué mon rôle. À la fin de la journée, il a dit, mais j'ai pris un client ce matin, il m'a parlé de Jésus, vraiment, mais... Tu vois? Il y a des fois, je suis au restaurant, quand le serveur veut me servir, monsieur, ça va? Oui. Vous connaissez Jésus? Non. Vous voulez quoi, monsieur? Non. Tu connais Jésus? Vous prenez quoi? Est-ce que tu connais Jésus? Non, mais bon, ça va venir. Maintenant, avec toi, je vais le connaître, ça c'est sûr. D'accord. Il faut parler de Jésus partout où tu vas. Parfois, tu vas te prendre des coups. C'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Amen. Ta vie doit être un témoignage. Dis-moi, ma vie doit être un témoignage. Tu sais pourquoi? Regarde, je vais te montrer encore un autre passage. Éphésiens 1 au verset 13 nous dit, merci par sa parole vivante, vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle, je rajoute de la grâce de Jésus-Christ qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors, lis bien cette phrase. Dieu a mis, dis avec moi, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, en vous donnant le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. J'ai oublié le mot peuple ici. La marque personnelle du royaume est sur toi. Est-ce que tu sais ça? Tu sais c'est quoi une marque? Tu vois cet ordinateur-là, Apple, ils ont mis la pomme pour bien montrer que c'est à eux. Parce qu'il y en a d'autres qui ont copié. Tu trouves d'autres ordinateurs qui ressemblent beaucoup au MacBook Pro. Mais ils n'ont pas mis la pomme. Ils ne peuvent pas mettre la pomme, ils n'ont pas le droit. De même, le jour où tu as donné, dès le moment où tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie, il y a eu un topement divin qui dit, approuvé. Il peut rentrer au ciel. Donc maintenant, partout où tu passes, même si les non-croyants ne voient pas la marque personnelle, sache que le démon de l'enfer, quand il te voit, il voit la marque. C'est pour ça qu'il te persécute autant. Il voit la marque. Tu as dit, Seigneur, j'ai trop de problèmes, je souffre. C'est parce que tu t'es pas encore levé pour manifester ton autorité. Parce que la marque personnelle, non, tu sais ce que ça veut dire marque personnelle? Est-ce que tu as entendu parler d'un poste que souvent tu entends en politique où on dit haut représentant du chef de l'État? Tu connais pas ce nom-là? La fille du feu président, elle était haut représentante du chef de l'État. Haut représentant, c'est un statut méchant. Haut représentant, partout il passe, il est comme le chef de l'État. Donc toi, tu es haut représentant du chef de l'État appelé Christ. Amen. C'est ce que tu es. C'est pour cela que quand tu pries, chaque fois que tu ouvres la bouche, le ciel s'arrête pour écouter attentivement ce que tu dis. Tu as vu les anges qui battent à leurs occupations quand Dieu parle. Quand Dieu parle, tous les anges s'arrêtent. Dieu a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? De même, toi, quand tu parles, le ciel s'arrête pour toi. Malheureusement, tu es ignorant. Et quand l'ennemi vient, il regarde, il fait « Il est ignorant, il va le mater. » Quand tu te tiens devant un esprit mauvais, tu négocies pas. On négocie pas. La Bible dit quand Jésus-Christ alla chasser le démon de Gadara, la Bible dit qu'il menaçait l'esprit. C'est pas menacer. Dieu utilise des vrais mots. Dieu dit il menaçait. C'est quoi menacer? Je vais te faire ça dur. Hein? C'est pas. C'est parce que souvent on aime représenter Jésus-Christ comme les catholiques nous l'ont représenté avec les yeux bleus, les longs cheveux blancs, tout cool, tout ça. Non, Jésus-Christ il était dur. C'est pas parce que tu vois le visage là que c'était un bébé. Hein? La Bible dit menacé. La Bible dit aussi que quand Jésus-Christ arriva chez la maman de Pierre, elle était couchée sur le lit parce qu'elle avait une forte fièvre. La Bible dit que Jésus-Christ se courba et menaça la fièvre. Tu sais ce qu'est menacer la fièvre? C'est pas au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. Mais non, c'est sort. C'est ça menacer. Sors. Si tu entends, une fois, regarde, tu sais, chez moi, tu connais mon histoire, tu sais qu'il y a toujours, il y a deux coqs là qui me font salir en ce moment. Les deux coqs là, ils me fatiguent dès 3h du matin. Ils me fatiguent ces coqs là. Et puis il y a aussi deux chats. Oui, il y a un qui est blanc et un qui est noir. Je te dis que les chats là, le jour où on les a avec ma femme, elle a dit, ça c'est quel chat ça? Les chats là, personne dans la cité ne sait d'où ils viennent. Ils se baladent de concession en concession. Mais ils ont toujours tendance à venir chez nous. Un jour, je te dis, j'ai dû sortir le matin. Vers 6h, 7h. Mon coq qui chantait. Et puis, je vais prendre de l'eau. Parce que tu sais, chez nous, en Gondi, on souffre avec l'histoire de l'eau là. Donc, je vais chercher les. Puis, je vois le chat. Il est sur ma barrière, comme ça. Et puis, il regarde dans ma direction. Je l'ai regardé. J'ai dit, je ne sais pas qui tu es, sorcier. Mais si tu mets pied chez moi, que le feu du Saint-Esprit te brûle. Et si je t'attrape, je te tue moi-même de mes propres mains. Il m'a regardé, il s'est levé, il est parti. Il ne voulait pas partir, j'ai pris un caillou. Quitte là! Sors de chez moi, sorcier. C'est la sorcellerie? Tu crois quoi? Tu penses que c'est juste un chat? Et un chat qui miaule, quand il miaule bizarrement. Tu sens que ce n'est pas un vrai chat. Si tu attrapes le chat,
et que tu lui coupes la tête dans ta cour et que tu le laisses là, reviens une heure après, tu risques de trouver un corps humain. C'est pour ça qu'il faudra le jeter loin, sinon la police va venir te faire des problèmes. Oui, faut les menacer. On ne négocie pas avec les démons. Dis avec moi, on ne négocie pas avec les démons. On les mate. On leur fait ça dur. Tu sais que je te raconte l'histoire quand j'étais jeune chrétien. Ça faisait pas très longtemps que j'avais donné ma vie à Jésus, mais j'avais compris ça. Et puis il y avait toujours un esprit qui venait me déranger la nuit dans mon sommeil. Je ne dormais pas. Esprit de séduction, je ne sais pas quoi. Mais la nuit, quand je dormais, je me voyais toujours dans des rêves bizarres. J'ai pas envie d'entrer dans les détails. Mais des choses bizarres. Il y en a qui ont vécu ça. Surtout ceux qui ont eu des vies mouvementées avec les femmes, là. Oui, nous, on a eu des vies mouvementées. Donc, quand on est venu à Christ, les démons nous ont fait ça dur. Mais le jour où j'ai compris mon autorité en Christ, il y a un esprit là qui venait tout le temps. Je dormais pas, je te dis. Je me réveillais toujours en sueur la nuit. Et puis un jour, j'ai appelé mon pasteur. Mon pasteur m'a dit, ah, Luc, arrête de me fatiguer. Tu connais la parole? Non. J'ai dit oui. Bah alors après, il m'a raconté, je l'ai tchac. J'ai dit, oh, ça c'est qui le pasteur ça? J'ai dit, bon, je vais prier. J'ai prié, j'ai jeûné. Et quand je suis rentré en jeûne, je suis resté 3-4 jours, j'ai dormi tranquille. Et puis j'étais content parce que je pensais que l'esprit était vraiment parti. 4-5 jours après, il revient de mon sommeil. Il me fait ça dur. Je me réveille, j'ai dit non, là là. Je me suis levé, il devait être 2h, 3h. Tu veux que ça va, c'était quoi ma prière? Je me suis levé, j'ai fait. Tu as osé revenir. Aujourd'hui, je ne te chasse pas. Tout à l'heure, je vais aller à l'école. Tu restes coincé dans ma chambre. Jusqu'à ce que je revienne. Et tout le temps, tu restes coincé dans ma chambre, que le feu du Saint-Esprit te brûle toute la journée. Ça, c'est quoi ma prière? Tu as dit, mon frère passait à côté de la porte, il dit, ça va. Il disait, mon frère est devenu fou. Mon frère est devenu fou. Il parle tout seul. Parce qu'il avait cogné la porte. Et puis il dit, Luc, ça va? J'ai dit, ça va, je suis en train de prier. Parce que je parlais fort. Non, attends, t'imagines, un non-croyant, tu entends ton frère qui commence à dire, au nom de Jésus, je te coince dans ma chambre. Et le feu lui dit, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon frère, depuis qu'il va à l'église là, c'est devenu compliqué. Et puis le soir, quand je rentre vers 18h de l'école, je ferme ma chambre à clé, comme si je pense sur le set, comme si le démon ne peut pas sortir, passer par la porte. Je ferme ma clé, clac, 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 clac. J'ai dit, te voilà encore, au nom de Jésus. Que le feu de cette te brûle, je te coupe la tête, au nom de Jésus. Et après, j'ai prié. Et après, j'ai dit, maintenant, je te chasse, tu ne reviens plus jamais. Je t'assure, il n'est plus jamais revenu. Plus jamais. Je ne sais pas si ce que je disais, c'était vraiment ce qui se passait. Tout ce que je sais, c'est que j'étais convaincu de ce que je disais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu as une autorité. Neuvième, on va finir bientôt avec ça. Neuvième caractéristique, la grâce surabondante est la source dans laquelle nous devons toujours puiser nos forces. Il y a un verset qui dit dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 1. C'est Paul qui est en train de parler à son fils spirituel. Et il lui dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Dis avec moi, fortifie-toi dans la grâce. Tourne-toi vers quelqu'un et regarde-le et dis-lui, fortifie-toi dans la grâce. Qui est en Jésus-Christ? La version parole vivante dit, toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui est nôtre dans la communion avec Jésus-Christ. La vie que nous vivons chaque jour est faite d'épreuves et de moments difficiles. Personne ne vit sur cette terre sans avoir des preuves. Ce n'est pas possible. Et parfois, il y a des situations par lesquelles on passe, ni les hommes, ni l'argent ne peuvent t'apporter la force et le courage pour tenir debout. Parfois, il y a des situations, des malheurs, des gens qu'on perd. Tu peux perdre un emploi, tu peux te retrouver à la rue, tu peux ne plus avoir d'argent. Ça peut être très difficile. Chacun ses problèmes. Et parfois, les hommes ne peuvent pas t'aider. Tu es juste là
tu n'as personne pour t'aider. Quand tu passes des coups de fil, les gens te disent, on ne peut pas t'aider, mon ami. Et tu te retrouves là, seul. Et c'est là que tu vas commencer à vivre ça. Fortifie-toi dans la grâce. Amen. Il y a des moments où même toutes les larmes de ton corps ne suffisent pas à te faire bouger le trône de Dieu. C'est juste la foi maintenant, de croire que Dieu va faire. C'est juste la foi de croire que Dieu va te consoler. C'est juste la foi de croire que Dieu va ouvrir la porte. Il y a quelqu'un, peut-être ça fait longtemps que tu cherches du travail. Tu ne trouves pas. Tu galères financièrement. Tu ne trouves toujours pas de travail. C'est dur à Libreville, sans travail et sans argent. Eh bien, Dieu te dit, fortifie-toi dans la grâce. Fortifie-toi. Tu ne sais pas quand est-ce que la porte va s'ouvrir. Mais au nom de Jésus-Christ, elle va s'ouvrir. Tu es là, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Ta vie ne change pas. Ta situation ne change pas. Tu ne sais toujours pas comment tu vas faire pour pouvoir préparer ta retraite et avoir ta maison. Fortifie-toi dans la grâce. Que Dieu va prendre soin de toi. Dans ces moments, seule la foi parlera. Ce n'est pas les beaux discours. Parfois, tu n'as même pas besoin, tu n'as même plus de force pour prier. Tu as déjà prié. Tu penses que Dieu n'a pas entendu. Dieu a entendu, le ciel a entendu. Il y a des fois, il faut prier, 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 prier. Tu jeûnes, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Il y a des fois, le corps ne suit plus. Il y a des fois, le corps dit, c'est bon, on est fatigué de prier. Là, il faut juste s'arrêter et attendre. Tu continues à travailler, tu continues à chercher, tout ça. Tu dis, Dieu, je ne sais pas quand est-ce que tu vas le faire, mais maintenant, c'est ta grâce seulement. Il y a des fois, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Il y a des fois, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Amen. La grâce surabondante est une source de force et d'énergie illimitée dans laquelle Dieu nous demande de puiser nos forces. Le mot « fortifie-toi » en grec, c'est le mot « dynamo ». Dis avec moi « dynamo ». En grec, le mot derrière « fortifie-toi », qui est traduit dans la parole vivante par « puise tes forces ». « Dynamo » a été traduit en français par « dynamite » et « dynamique ». La grâce surabondante est une source d'énergie tellement puissante qu'on peut la comparer à de la dynamite. De sorte que quand tu mets toute ta foi dans la grâce de Dieu, tu as une espérance et une force qui remonte et qui te permet de tenir le coup et de traverser l'épreuve. Parce que si tu n'avais pas la grâce de Dieu, tu ne tiendrais pas, tu tomberais seulement. Tu n'as pas remarqué que dans le monde, il y a des gens qui passent par des situations tellement difficiles. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas en Christ, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne connaissent pas la grâce, ils ne savent pas où s'accrocher. Et ils n'ont recours, malheureusement pour eux, qu'au suicide. Il y a beaucoup de suicides dans le monde. De gens qui se suicident parce qu'ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Moi, j'ai vécu en France, le nombre de SDF qui se suicident, des gens qui meurent de froid, des gens qui se pendent, des gens qui se jettent sous le rail d'un train parce qu'ils ne peuvent plus, ils ne tiennent plus. Arriver à un niveau de désespoir comme ça, là, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut sauver quelqu'un. Une fois, j'étais à une conférence chrétienne à Londres. Et c'était un pasteur américain qui s'appelle Jermaine Bryan qui était en train de prêcher. Et il avait prêché, c'était fort le message. Et puis, le Seigneur l'emmène sur une parole, lui commence à parler du suicide. Et là, Dieu le conduit et Dieu lui dit, « Dis à tous les gens qui pensaient sérieusement au suicide, et qui voulait se suicider ce soir ou demain, de se lever. » Donc, quand il dit ça, tu te dis que tu vas peut-être une personne ou deux se lever, tu vois. Si tu vois le monde qui s'est levé, j'ai dit, oh, il a dit des gens qui pensent sérieusement au suicide et qui sont prêts à se suicider, se lèvent et viennent devant. On va prier pour eux. Regarde le monde qui se lève. On était là, on s'est regardé avec mon ami, on a dit, oh, là, c'est sérieux, hein. Le suicide, mais tout le monde allait mourir là demain. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Le suicide est un esprit. Il est vaincu au nom de Jésus. Et tu le retrouves beaucoup chez les jeunes. Mais quand quelqu'un n'a pas, ne connaît pas la grâce, quand quelqu'un ne connaît pas Jésus, il n'a rien sur quoi s'accrocher. L'esprit malin vient lui crier ça dans l'oreille. Va, jette-toi d'un pont, tue-toi, va, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. Et puis il va, il le fait. Amen. La grâce surabondante, elle est une force. Quand tu es là, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas où t'as, sur quoi t'as grippé. Remets-toi à la grâce et fortifie-toi. Amen. La Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 12, au verset 2, c'est une parole d'encouragement que le Seigneur nous donne. Voici, Dieu est ma délivrance. Dis avec moi, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Et Paul nous rajoute dans Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Parole vivante dit, je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Si Jésus-Christ n'est pas la source de ta force, tu vas avoir des problèmes. Je t'assure, fais attention à mettre ta confiance dans les hommes. Ne mets pas ta confiance dans les hommes. Les hommes te décevront toujours. Ils sont bons aujourd'hui, demain ils changent. Ils sont avec toi aujourd'hui, demain ils ne sont plus avec toi. Combien d'entre nous ont mis la confiance en quelqu'un et puis la personne les a tellement déçus qu'ils se sont dit, mais mon Dieu, comment il a pu me faire ça? Comment il a pu me faire ça? C'est-à-dire l'homme, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Tu ne peux pas le faire comme ça, quelqu'un qui a un cœur méchant. Fortifie-toi dans la grâce. Amen. Et David, qui avait compris ça, nous dit, psaume 31, je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Et au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'en 2015, Dieu mettra tes pieds au large. Amen. On va finir avec un dernier point pour clôturer. C'est la dixième caractéristique. Ça me permettra de continuer sur la onzième la semaine prochaine. La dixième caractéristique, la grâce surabondante. Celle-là, elle est très importante. Nous donne le pouvoir sur Satan et tous ses agents démoniaques. Dis avec moi le pouvoir. Ce point est très important. Je vais te démontrer quelque chose en deux minutes. Tu vas voir, tu vas comprendre. La Bible nous dit dans Jean 17, au verset 14 à 16, français courant. C'est Jésus-Christ qui parle. Et il parle de nous. Il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Dis avec moi, je n'appartiens pas au monde. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais, de Satan. Ils n'appartiennent pas au monde. Dis quoi, on n'appartient pas au monde. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. Bien qu'on soit dans le monde, on n'est pas de ce monde. Bien qu'on soit dans le monde, aujourd'hui, on est des voyageurs. Et un jour, on va partir. La vie que tu as là, elle n'est pas éternelle. Un jour, nous tous, on part. Mais le temps qu'il nous est imparti sur la terre ici, on a un rôle à jouer en tant qu'église de Christ. Et le monde dans lequel nous vivons, la Bible dit qu'il est sous la puissance du diable. 1 Jean 5, 19 dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Il faut comprendre ça. Le monde dans lequel on vit là, il est sous la puissance du diable. Il n'y a rien là, dans ce monde-là, que Dieu approuve. Rien. Ce monde-là passera. C'est pour ça qu'il ne faut pas aimer le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde et ceux qui s'y trouvent. N'aimez pas ça. Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et celui qui aime le monde, il va se perdre. C'est clair. Est-ce qu'on me suit? Et quand il dit, dans le premier livre de Jean aussi, chapitre 3, verset 8, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tu penses qu'il parle de qui ici? Il ne parle pas seulement de Jésus. Il parle de toi et moi aussi. C'est qui les fils de Dieu? Eh bien, c'est toi et moi. Et quand on est en face d'une œuvre, et Dieu nous révèle que cette œuvre, c'est Satan,
Dieu dit, c'est à toi de détruire ça. Jésus ne va pas quitter son trône depuis le ciel pour venir détruire ça. C'est à toi de détruire ça. Par tes paroles. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 17, 14, je leur ai donné ta parole. C'est quoi l'épée que nous avons entre nous-mêmes pour détruire les œuvres du diable? C'est la parole. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, la grâce surabondante, quand elle lance là, elle te donne cette autorité-là. Dis quoi, autorité?
Autorité.
Parce que tu as une autorité. Et ce pouvoir que nous avons en Jésus, il nous vient de la nature divine que nous acquérons à la nouvelle naissance par Dieu, le Saint-Esprit, et de notre statut de fils de Dieu, fils héritier. Est-ce qu'on me suit? Donc, ce n'est pas juste une affaire de « je veux vivre ma vie chrétienne pieusement, je veux déranger personne, etc. » Je veux te dire une chose, un enfant de Dieu en Christ ne peut pas avoir une vie sans connaître le combat spirituel. Tu peux pas. Si tu dis que moi, le combat spirituel, les démons, tout ça, c'est pas trop mon truc, ils vont te faire ça dur. Tu as vu un chrétien que les démons laissent tranquille? Ça n'existe pas. Donc, il faut apprendre à se réveiller parce que la grâce surabondante, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle arrive, le jour où tu confesses Jésus, il y a un ange qui vient derrière toi et il te revêt d'un manteau de pourpre qui signifie la royauté avec un petit bouton qui l'attache ici. Et quand tu marches en Christ, il y a une cape, comme une traîne, comme la traîne de la mariée quand elle rentre à l'hôtel, qui traîne derrière. Donc, même si tu dis, Seigneur, moi je ne suis pas dans les choses des démons là, les démons voient ça. Et quand ils voient ça, ils disent, mais lui il est bête ou quoi, on va le mater. Donc tu vois des trucs bizarres qui arrivent dans ta vie, des accidents bizarres. C'est pour cela que la semaine dernière, quand j'ai vu certaines choses, je suis entré à la maison et je priais au début de la semaine. Le Saint-Esprit m'a donné une parole. Il m'a dit, fils, même dans les plus petites choses, les plus insignifiantes, tout est spirituel. Le diable va t'avoir si tu ignores les petites choses. Le matin, quand on a commencé à prier, vous n'avez pas vu qu'il a commencé à pleuvoir fort, fort. Là, il pleut. Est-ce qu'il pleut? Quand on a prié, le premier sujet de prière, j'ai dit, on va prier pour que la pluie, là, ça arrête. Tu as dit, mais la pluie, c'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui fait tomber la pluie, non? Tu sais comment les esprits fonctionnent? Ils veulent nous déranger ici. Tu sais ce qu'ils vont faire? Ce sont des esprits. Ils montent dans l'autre sphère et puis ils bousculent là-bas. Quand ils bousculent, tu entends son... Et puis il pleut. Parce que ça vous dérange, ça vous empêche de faire votre culte. Dieu m'a montré ça. Je dis, mais ça, c'est quelle ville en Gondje? Tout le temps, chaque fois qu'on commence à faire le culte, il pleut. Dieu m'a dit, les plus petites choses, fils, réveille-toi. Job chapitre 36, Dieu dit à Job, est-ce que tu as parlé au matin? Tu t'es levé pour parler au matin. Quand tu te lèves le matin, tu ne pries pas là. Tu viens en désordre, puis tu dis, Seigneur, je te loue ça. Tu vois? Faut parler au matin. Jésus-Christ dormait dans la barque. Là, tu t'entends, non? Jésus-Christ dormait dans la barque. La tempête commence à se lever. Les gens disent, oh Seigneur, nous périssons. Jésus-Christ se réveille. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Il se tourne, silence, tais-toi. Le calme revient. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et ça, c'est spirituel. La nouvelle création en Christ a le pouvoir de parler à la création qui l'entoure. Et elle a aussi le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Regarde ce que Jésus-Christ nous dit. Jésus-Christ dit dans Matthieu au chapitre 28 au verset 18. Jésus dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir, dis-moi tout pouvoir.
Tout pouvoir
m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu penses que s'il n'y a pas de problème, il sera avec vous? Pourquoi il dit précis, salut, je suis avec vous? Parce qu'il sait que là-bas, là, ça va être le combat. Ça va être le combat. Marc 16 dit que les apôtres annonçaient la parole et Dieu confirmait sa parole par des signes et des prodiges. Dieu, pourquoi la Bible dit qu'il confirmait? Parce qu'il fallait qu'il confirme qu'il était avec eux. Parce que si Dieu ne confirmait pas, les gens allaient dire, vous êtes des rigolos. Donc, quand y a, tu découvres qu'autour de toi, il y a des activités démoniaques qui sont là pour nuire à ta progression, tu te lèves, tu prends autorité, tu dis, au nom de Jésus, j'ordonne et je déclare que toute l'armée des cieux se met en branle maintenant et travaille en ma faveur au nom de Jésus-Christ. Je libère le ministère des anges en ma faveur. Et tout sorcier, toute personne qui voudrait se mettre en travers de mon chemin se rendra compte comme il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quand tu es face à un démon, il ne faut pas avoir peur. Tu as autorité.
Dis avec moi, tout pouvoir m'a été donné. La grâce surabondante repose sur les enfants de Dieu en Christ et leur donne le pouvoir sur Satan et sur tous ses agents. Aucun démon ne peut te résister. Ils doivent se soumettre à la mention du nom de Jésus chaque fois que tu leur donnes. Ils feront de la résistance, certes, mais tu n'as rien à craindre car aucun démon ne peut résister au pouvoir de Jésus-Christ. Et la grâce surabondante, elle t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses, mais elle te revêt d'une autorité. Même une petite fièvre qui entre dans la maison que tu vois sur ton enfant, dès que tu vois une petite fièvre qui commence à perturber ton enfant là, tu prigues. Bon, une fois j'étais chez ma maman avec ma fille et ma femme, et ma fille a fait une fièvre. Ma mère était maintenant là. Mais depuis, pourquoi tu n'es pas à la pharmacie, tout ça là, on va prendre les médicaments, allez, on va prendre la voiture, on va aller à la pharmacie. J'ai dit non. Donc je vais prendre les clés de la voiture, on s'en va. Donc quand elle revient au salon, elle me trouve avec ma fille dans mes bras, puis je suis comme ça, la main sur son front. Kataya, mon côté. Au nom de Jésus. Ah, mon côté. Elle fait. Ah, il prie. J'ai laissé tes médicaments là. Je prie d'avance sur la fièvre de mon enfant. Parce que la fièvre là n'était pas normale. 3 jours, une fièvre qui perturbe ma vie. J'ai dit non, Satan, tu ne viendras pas me perturber. On fait un ministère et on avance. Au nom de Jésus, tu pars. Tu pars. J'ai prié. Avant la fin de l'après-midi, la fièvre était partie. Et c'est comme ça qu'on doit se comporter. Tout est spirituel. On opère dans le surnaturel. On vit dans le naturel, mais on opère dans le surnaturel. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui opère dans le surnaturel. Tout ce que tu vois, même quand vous allez à l'école, vous les jeunes, vous devez être dans le surnaturel. C'est-à-dire que vous êtes là. Et vous, quand vous regardez les choses, dès que vous voyez les choses arriver dans l'école, etc., vous devez tout de suite être alerte. Et dès que vous voyez qu'il y a des trucs bizarres qui arrivent, des accidents, des morts, des trucs là, il faut prier. Dès que vous voyez des, par exemple, je ne sais pas moi, on vous dit qu'à tel carrefour à côté de chez vous, tout le temps, à ce carrefour-là, il y a les accidents. C'est un esprit malin qui se balade là pour faire les accidents. Moi, quand j'étais au lycée Mba, j'étais pas en Christ, mais c'est quand je suis venu en Christ des années après que j'ai compris ça. Je suis resté de la sixième jusqu'à la troisième au lycée Mba. Il y avait de ces accidents. Les gens font mourir comme la blague. J'ai vu sous mes yeux comme ça des enfants mourir. Les voitures roulaient vite, boum, et ça topolait les enfants dans tous les sens. C'était l'esprit qui faisait ça. Il n'y avait aucun chrétien qui s'était levé pour dire, au nom de Jésus, maintenant on sanctifie ce lieu. Et l'esprit qui fait ça, on le chasse d'ici. Et en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y avait une histoire comme ça. Un carrefour où tout le temps, il y avait des accidents mortels. Au point que les Ivoiriens avaient appelé le carrefour là, le carrefour de la mort. Il y a un pasteur, il a dit, assez. Il s'est levé. Il est venu la nuit, il a pris des frères, il a dit on va prier sur le carrefour là. Il a pris une pancarte, il a écrit avec la peinture, il a planté ça en plein milieu de carrefour de la vie. Et puis il a prié, toute la nuit. Le lendemain tout le monde découvre carrefour de la vie. Oh, il y a un gars qui est venu écrire carrefour de la vie. Depuis le jour là, plus jamais il y a eu d'accident. Voici ce qu'est être la lumière du monde. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, Jérémie dit en parlant de toi, voici, je t'ai établi en ce jour sur tout le pays. Dis avec moi, Dieu m'a établi sur tout le pays. Dieu, là, tu te regardes, Dieu t'a établi sur le pays. Comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. quand tu te lèves et que l'ennemi fait de la résistance dans ta vie et que tu sais que ça c'est l'ennemi qui veut te faire du mal, quand tu pries, ils ne te vaincront pas parce qu'il est coriace, il fait de la résistance. Mais tu dois prendre autorité. Et ils ont déjà vu la destinée de la maison du bâtisseur. C'est pour ça qu'ils commencent. Pour ceux qui ne savent pas, on est déjà passé à une autre saison. Ils ont commencé. Et ils savent. Ils savent. Parce qu'Akanda, là, ils voulaient prendre ça. Mais on a dit, Akanda, c'est pour nous. C'est pour Christ. On pense ça. Demande-moi les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Psaume chapitre 2. J'ai dit, Seigneur, nous prenons ça, ça fait partie de notre héritage. Parce que Dieu dit dans le livre de Josué, chapitre 1, que toute terre, que la plante de ton pied foule, je te la donne. Et cette terre, mon pied a foulé ça. C'est pour nous. C'est pas pour les sorciers d'ici. On prend ça. Et tous les foyers qui sont ici là, ils vont tous venir à l'église. Ils ne te vaincront pas. Parce que Luc 10, chapitre 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, dites-moi, rien ne pourra vous nuire. Français courant dit, écoutez. Dites-moi, écoutez. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser, dites-moi, écraser. Toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Parallèlement dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher impunément. Ça veut dire impunément. C'est-à-dire que tu peux le shooter, Dieu ne va rien te faire. Impunément sur les serpents et les scorpions. De dominer, dis-moi de dominer. Sur toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. On parle de toi ici. Et voici ce que la grâce surabondante fait dans notre vie. Et premier livre de Jean, chapitre 4, verset 4, dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Pas vous les vaincrez, vous les avez. C'est du passé. Quand tu vois un démon devant toi, c'est du passé. Il est du passé, il est vaincu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Dis avec moi, je règne ici-bas.
Je règne
en Jésus-Christ. Par la grâce surabondante. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je voudrais maintenant qu'on courbe la tête et que tu pries. Et que tu réalises qui tu es. Si Dieu nous donne ces paroles, c'est pour nous faire comprendre qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau. Et chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il le fait toujours au travers de son corps, au travers de son église, Christ. Nous sommes l'église de Christ. Et Dieu a commencé une œuvre au travers de notre vie. La grâce surabondante active les promesses dans notre vie. La grâce surabondante ouvre nos yeux sur la réalité du monde qui nous entoure. La grâce surabondante nous fortifie d'une force surnaturelle. Et la grâce surabondante nous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons ce pouvoir-là entre nos mains. Et rien ne peut nous nuire. Parce que tout simplement, Dieu a dit que tu as une grande destinée. Parce que tu as une grande destinée, sache qu'il y a des géants d'Anak qui se tiendront devant toi et qui t'empêcheront d'avancer. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Tu prospéreras, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas avant le temps, tu vieilliras de longs jours et tu prospéreras dans le pays. Tu posséderas le pays au nom de Jésus-Christ. Personne ne se tiendra devant toi et résistera. Parce que la grâce surabondante de Christ repose sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, fortifie-toi dans la grâce. Fortifie-toi et prends courage dans la grâce. Ne crains pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as rien. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu n'as rien. Mais sache que les anges de l'Éternel sont avec toi. Le ciel est ouvert au-dessus de ta tête et la grâce repose sur ta vie. L'épreuve par laquelle tu es en train de passer n'est qu'une étape du long parcours que tu dois parcourir avec le Seigneur. Et Dieu se prépare à faire quelque chose de nouveau dans ta vie, dans nos vies. Alors appuie-toi sur sa grâce.
ne t'appuie pas sur les hommes, ne t'appuie pas sur l'argent, ne t'appuie pas sur tes parents. Appuie-toi sur Jésus-Christ, sur sa grâce, sur l'abondance qui coulera dans ta vie. Oh Seigneur, merci. Oh,
ta grâce me suffit, ta grâce me suffit pleinement. Ta grâce me suffit, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit pleinement. Ta grâce me
ta grâce, elle nous suffit suffisamment. Elle nous suffit. Elle est abondante et surabonde dans nos vies, Seigneur. Elle active les promesses divines dans nos vies, Père. Elle ouvre nos yeux sur la réalité du monde qui nous entoure afin de marcher dans le surnaturel, Père de grâce. Elle nous équipe d'un manteau de pourpre qui signifie la royauté afin, Seigneur, de marcher dans la domination et d'opérer dans le surnaturel au nom de Jésus-Christ. La grâce surabondante de Christ, Seigneur, nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance et toutes les forces de l'ennemi au nom de Jésus. Aucun esprit, Seigneur, n'a de pouvoir sur un de tes enfants. Aucun. Tout enfant de Dieu qui est oppressé par un quelconque esprit, qu'il soit libéré, Seigneur, à écouter cette parole au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ta grâce. Ta grâce nous suffit pleinement pour opérer. Voici, Seigneur, tu nous fais opérer dans des lieux élevés, Seigneur, désormais. Et désormais, le ciel est ouvert au-dessus de notre tête, Seigneur. Nous opérons à une dimension surnaturelle, une dimension supérieure, une dimension de sagesse supérieure, une dimension d'impact supérieur, une dimension de prospérité supérieure, une dimension de grâce supérieure, une dimension de surnaturel supérieure à toutes les dimensions qui puissent exister. Au nom de Jésus-Christ, par la grâce surabondante de Christ Jésus, sois honoré, Seigneur. Merci pour ta parole qui donne de l'intelligence et ouvre la sagesse en nous. À toi soit la gloire et la louange, Père. Merci pour l'œuvre que tu as commencé dans nos vies et que tu rends parfaite dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié, que tu bénisses. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'Église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.